Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter naturellement sur les suites de l'intervention télévisée du président de la République, donc sur l'Ukraine, les rapports avec la Russie, d'autant que après cette intervention télévisée sur laquelle nous allons revenir, il y a aussi ce dimanche donc la réélection entre guillemets de Vladimir Poutine et donc les conséquences que cela peut avoir, notamment sur la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons avec nous pour tenter de nous éclairer Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste de géopolitique et que vous enseignez. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, Paris, et entre autres ouvrages, vous aviez un ouvrage qui m'avait marqué, les éléments de la puissance. Vous raisonniez sur qu'est-ce que la puissance aujourd'hui, les voies de la puissance, et en tout cas, c'est une réflexion tout à fait importante dans les temps qui nous occupent. On va d'abord dire un mot de l'intervention présidentielle donc de jeudi soir, qui ponctuait au fond une séquence entre guillemets exemplaire du point de vue des institutions, puisque auparavant l'Assemblée nationale s'était prononcée, puis le Sénat, chose inédite sous la Ve République, sur un accord diplomatique passé entre Paris et Kiev. On imagine mal, en effet, François Mitterrand se prêtant à ce type de séquence, et en fin de séquence, donc, une intervention du président de la République pour redonner les grandes lignes, les grands axes stratégiques du pays. Sans revenir sur ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée qu'au fond, on a senti que le président de la République considérait qu'on est peut-être en effet à un tournant de cette guerre et qu'il est quand même habité par une sorte d'inquiétude très lourde sur ce qui peut advenir. Est-ce que ce pessimisme-là vous paraît justifié, Frédéric Ancel? Et d'autre part, on a bien vu que le président de la République argumentait beaucoup puisque une partie de l'opinion est en train de se détacher du soutien à l'Ukraine, non pas du principe du soutien à l'Ukraine d'ailleurs, mais de ses modalités, ce qui peut revenir au même, mais néanmoins on sent bien que l'opinion tente à s'éloigner. Donc il a très fortement rappelé, mais est-ce que c'est vraiment comme cela que ça s'est passé? Il a rappelé que depuis sa première élection en 2017, il n'avait cessé d'essayer de convaincre Poutine, de l'amener à des discussions plus raisonnables et d'éviter justement ce qui est en train de se produire. Et donc il justifie sa fermeté d'aujourd'hui par le fait qu'il a au fond, il aurait au fond tout essayé avant d'en arriver là, Frédéric Ancel.
Oui, je pense qu'il y a trois nouveautés. D'abord sur des temps relativement longs, vous avez bien fait de le rappeler, sous la cinquième, après jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à ces toutes dernières années, et une réforme bienvenue, hein, c'est le président de la République, évidemment, disposait de l'intégralité des prérogatives en matière de défense d'affaires étrangères. Vous avez cité Mitterrand, et ça tombe très bien, parce que 30 ans après, le déclenchement du génocide rwandais, c'était important de le rappeler, évidemment, les présidents de la République, et notamment Mitterrand n'en référait pas à l'Assemblée nationale, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on a une vraie nouveauté qui est bienvenue, me semble-t-il, d'un point de vue démocratique. La deuxième nouveauté, c'est celle qui concerne Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire que, à mon sens, si ma mémoire est bonne, jamais un président de la République n'avait donné un véritable cours stratégique. C'est un cours concernant la dissuasion, enfin, qui a été donné, et l'ambiguïté stratégique. Donc ça, c'est important, et de son point de vue lui-même, de jeune président, alors réélu certes, enfin, il est quand même encore jeune, il est trop jeune pour avoir tenu les armes et avoir fait son service militaire, donc il a été obligé de travailler sur les questions régaliennes, et jamais il n'avait eu de discours aussi clair, aussi net, aussi précis sur des questions militaires et stratégiques. Enfin, troisième point, la nouveauté, effectivement, oui, c'est cette inquiétude plus grande qu'auparavant. Oui, je crois pouvoir dire que, sans connaître le détail des conversations téléphoniques entre M. Macron et M. Poutine, que Emmanuel Macron est extrêmement déçu, a été ou ressent une forme d'humiliation. Il pense qu'il a été berné par un Poutine avec lequel il souhaitait conserver un contact. On se souvient des premiers mois. Vous l'avez même eu cette formule, à mon sens, très malheureuse. Il ne faut pas humilier la Russie. en pleine attaque, en pleine offensive russe, des premiers mois. Bon, donc il y a deux ans de cela. Et je pense qu'effectivement, son dépit est à la fin, la clarté et le caractère très, très alarmiste de son discours d'hier est à la mesure de sa déception et pas seulement de son inquiétude militaire.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, je suis d'accord, tant que il se place dans une perspective longue. Tout l'Occident a cherché la conciliation avec Poutine. D'une certaine façon, par exemple, l'Occident avait admis, à la demande de la France et de l'Allemagne, que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Si le but de Poutine était simplement d'obtenir un statut de neutralité de l'Ukraine, il l'aurait obtenu, il l'avait d'une certaine façon obtenu. Et ce qui caractérise la situation actuelle, c'est que d'une part, Poutine est agressif, c'est-à-dire qu'il veut, je crois, la disparition peut-être de l'Ukraine comme État, certainement comme démocratie. Et il veut, au fond, une Ukraine qui soit comme elle devenue la Biélorussie, c'est-à-dire avec des troupes russes pouvant être présentes sur le territoire et un refus d'une démocratie qui menacerait son propre régime. Finalement, ce qui caractérise Poutine, c'est la tyrannie. Ce n'est rien d'autre que la tyrannie. La tyrannie a besoin de deux choses. Elle a besoin de la force à l'intérieur et, pour calmer l'opinion interne, de lui offrir un message nationaliste et impérialiste. Il est exactement comme était Mussolini dans les années 20 ou comme était Hitler dans les années 33 à 36, 37, c'est-à-dire qu'il satisfait l'opinion allemande. Il satisfaisait l'opinion allemande ou l'opinion italienne, et en contrepartie de l'absence de démocratie, ils offraient l'évocation nationale ou le prestige national. Et la situation est grave parce qu'il y a un risque de reflux des États-Unis avec l'élection de Trump, qu'il y a une disproportion démographique entre la Russie et l'Ukraine, et que donc il faut compenser cette différence de dimension entre l'Ukraine et la Russie en donnant à la Russie les armements modernes dont elle a besoin, c'est-à-dire des fusées à longue portée, des obus et des avions. 50 F-16 leur sont promis, ils n'en auront en juillet que 5, et il faut que l'ensemble des pays occidentaux fassent un effort, impliquant d'ailleurs, comme l'a dit le président Macron, impliquant que des techniciens militaires soient présents autour de l'Ukraine ou en Ukraine pour permettre aux Ukrainiens de s'adapter aux armements modernes qu'on leur donnera.
Frédéric Ancel, jusqu'à quel degré doit-on être inquiet? Parce que ce que décrit Jean-Claude, ça montre en même temps qu'il y a toujours cette course de vitesse, d'une part, entre les équipements qu'on peut fournir à l'Ukraine et la réalité du front. Alors, je sais bien qu'on dit que le front est gelé, mais l'Ukraine est aujourd'hui sur la défensive, et elle est de plus en plus sur la défensive. Donc, je pense que cela aussi, ça nourrit l'inquiétude qu'a exprimée ou qu'a montrée Emmanuel Macron dans son intervention télévisée. Frédéric Ancel.
Oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est une inquiétude qui ne se fonde pas seulement sur des réalités techniques ou strictement militaires du terrain. Je pense que il a exprimé, de ce point de vue-là, on ne peut pas, alors qu'on soit d'accord ou pas, avec son positionnement lié à l'Europe puissance et à l'autonomie stratégique, on peut être d'accord ou pas. Mais en revanche, on ne peut pas considérer qu'il n'est pas cohérent là-dessus. Emmanuel Macron a toujours insisté, y compris par des formules choc, qu'on se souvienne de sa fameuse formule selon laquelle l'OTAN était en état de mort cérébrale. Bon, là, lorsqu'il évoque l'envoi de troupes au sol, d'abord, il n'a jamais parlé de troupes combattantes. Donc, les cris d'orfraie de l'extrême gauche et de l'extrême droite, comme d'habitude, sont totalement instrumentales. Mais là, on a affaire à une vraie inquiétude, j'allais presque dire philosophique, concernant ce que doit être l'Europe demain. Et de ce point de vue-là, les mots qu'il a très forts, très clairs, encore une fois, qu'il a employés hier, correspondent bien, cherchent à, me semble-t-il, à enfoncer le clou et à convaincre un certain nombre de nos partenaires européens qui, pour l'instant, franchement, sur la question de l'autonomie stratégique, traînent les pieds, et c'est le moins qu'on puisse dire. J'emploie là une véritable litote. Donc, tenter de les convaincre sur la base de ce que pourrait être une victoire catastrophique russe en Ukraine, qu'il faut agir et réagir. Et ce qui vient d'être dit est très important. Si Trump revient au pouvoir, il cassera l'OTAN. Il cassera l'OTAN. Et donc, on aura vraisemblablement l'établissement d'une, peut-être deux bases américaines en Europe de l'Est, dont une en Pologne, ça c'est à peu près certain et acquis. Alors les Polonais et les Baltes seront tout à fait satisfaits et très contents de se sentir protégés, mais quid du reste de l'Europe ? Je pense que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a raison de d'exprimer ouvertement et de manière parfois peut-être un petit peu alarmiste son inquiétude sur la situation en Ukraine.
Jean-Claude,
oui, mais une partie de l'Europe du Nord, le Danemark, la Suède, de l'Europe de l'Est, la Pologne, les pays baltes, etc., ont pris conscience. Il y a des pays un peu en retard. L'Espagne est particulièrement en retard. Plutôt que de faire semblant de parler basque au Parlement pour garder une majorité, il ferait mieux d'augmenter leurs dépenses militaires. Et ils ont les dépenses militaires extrêmement basses et d'aider de la meilleure façon possible l'Ukraine. Donc, je pense que c'est très heureux d'ailleurs pour la France. Macron est en avance sur ce que doit être l'opinion européenne. Il prévoit très exactement les dangers qu'il menace et de ce fait, on peut être optimiste, de même que Trump n'est pas encore élu. J'ai le sentiment que la société américaine va progressivement prendre conscience du danger qu'il représente.
En tout cas, il y a quelqu'un qui s'apprête à être réélu, c'est Vladimir Poutine.
Oui, oui.
Parce que Vladimir Poutine veut pouvoir continuer à parler de démocratie, donc de décrire la Russie comme une démocratie. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des élections. Et donc, il organise des élections de façon très simple, hein, puisque les opposants dangereux sont éliminés physiquement, et les opposants qui peuvent faire de la figuration sont carrément découragés par des décisions de justice. Donc, on pense, sans prendre trop de risques, que Vladimir Poutine va célébrer sa réélection dès dimanche soir. Frédéric Ancel, donc le ministre français de la Défense, Monsieur Le Cornu disait il faut s'attendre à une nouvelle fuite en avant de la part de Vladimir Poutine une fois qu'il sera réélu. Est-ce que vous partagez cette année et qu'est-ce que ça peut être une fuite en avant, Frédéric Ancel ?
Non, pas mécaniquement. Moi, je pense qu'on est là davantage dans la supputation. En réalité, c'est peut-être par un faux paradoxe, ce sera peut-être, je ne vais pas faire action d'optimisme, BA, mais enfin, ce sera peut-être le contraire. Après tout, il peut très bien considérer que puisqu'il a été réélu, évidemment dans le cadre d'un simulacre grotesque, mais enfin, les apparences jouent beaucoup, notamment pour un régime autoritaire comme le sien et en pleine dérive, autoritariste comme est le sien, il peut très bien considérer que puisqu'il a été réélu, il est aujourd'hui fondé à recueillir les propositions de négociation des Ukrainiens ou des Occidentaux. Cette élection entre guillemets ne marquera pas nécessairement mécaniquement une fuite en avant militaire. Et j'ajoute un point important, c'est que on peut être élu correctement ou non correctement, ça n'implique pas de nouvelles divisions blindées fraîches et modernes sur le terrain. Donc je ne pense pas que ça soit quelque chose de mécanique. Je pense que il ne faut pas tenir compte de cette élection comme un élément nouveau, parce qu'il n'y a rien de nouveau, parce que c'était prévu, parce que c'était organisé. Et là encore, je rejoins ce qui a été dit de manière extrêmement importante tout à l'heure. Ce n'est pas seulement Vladimir Poutine ne fait pas seulement assaut d'impérialisme grand russe ou pan russe, appelons-le comme ça, mais il cherche effectivement aussi à éviter la contagion démocratique. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on est sur un double clivage, un clivage, j'allais presque dire nationaliste, territorial ou impérial, relativement classique, vis-à-vis d'un certain nombre de ses voisins, dont bien sûr l'Ukraine, enfin, on l'avait vu aussi avec la Géorgie, on l'a vu avec la Biélorussie, etc. Mais aussi un clivage, peut-être même encore plus grave, qui correspond à celui qui existe entre les États autoritaires et les États démocratiques. Et de ce point de vue-là, le rapprochement avec Pékin, avec Téhéran, avec Pyongyang et avec d'autres régimes, sur cette base-là finalement, sur la base de la détestation de la démocratie, me semble extrêmement grave. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'il faut tenir et ne pas être, et j'emploie le terme haïtien, ne pas être munichois, comme le sont un certain nombre de responsables politiques ou d'observateurs en Europe aujourd'hui.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Ancel pour commenter à la fois l'intervention du président de la République cette semaine et la réélection de Vladimir Poutine programmée pour demain puisque le vote se déroule le week-end. Et nous évoquions donc les perspectives qu'ouvrait ou que confirmait cette réélection de Vladimir Poutine. Vous avez évoqué, Frédéric Ancel, à l'instant, l'attitude de la Chine et l'alliance qu'il y a objectivement entre la Chine et la Russie et l'Iran, notamment sur des bases qui sont évidemment le refus systématique et le refus stratégique de toute évolution démocratique, opposant donc les régimes autoritaires et les régimes authentiquement démocratiques. Mais sauf que la Chine, c'est peut-être un peu plus compliqué, Frédéric Ancel, parce que ça rejoint les menaces permanentes que Vladimir Poutine fait peser sur évoquant l'éventuel recours à l'arme nucléaire. L'arme nucléaire de terrain. Alors que lorsqu'il l'avait fait déjà, il y a quelque temps, il s'était attiré une mise au point du président Xi Jinping qui était très claire sur le fait que la Chine ne soutenait pas ce type de menace et ne soutenait pas d'action mettant en jeu les armes nucléaires. Frédéric Ancel.
Alors je suis et je reste indécrottablement optimiste sur la question nucléaire justement grâce à la Chine. Je veux dire, c'est un faux paradoxe. On peut incarner un régime très autoritaire, là aussi en pleine dérive ultra personnalisée, comme l'est le régime aujourd'hui chinois, et ne pas vouloir faire la guerre. Et certainement pas soutenir l'aventurisme d'un allié qui n'est pas vraiment un allié, enfin qui est un partenaire. La Russie n'est pas un allié militaire de la Chine. En tout cas, un partenaire qui, lui, raconte n'importe quoi. Et vous avez bien rappelé, je le rappelle aussi depuis maintenant pratiquement 2 ans, qu'à plusieurs reprises, Vladimir Poutine a évoqué des risques d'apocalypse en pointant bien évidemment la faute et l'éventuelle responsabilité sur l'Occident. Et à chaque fois, effectivement, il s'est fait taper sur les doigts par Pékin. Sur le plan nucléaire, la Chine est une puissance extrêmement conservatrice. Et d'ailleurs, elle l'est de manière... ce conservatisme chinois est très intelligent et intelligible. Sur le plan strictement nucléaire, la Chine est une petite puissance. Hein, face à la Russie, surtout face aux États-Unis, et au fond, face à ce qui serait une alliance occidentale avec la France et le Royaume-Uni intégrés, la Chine n'a absolument pas intérêt à renverser la table du traité de non-prolifération de 68 qui jusque-là n'a jamais été réellement transgressé. Donc de ce point de vue-là, je suis assez confiant. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est un impérialisme de plusieurs États révisionnistes qui souhaitent modifier en profondeur l'exercice des relations internationales et les rapports de force sur la base de la détestation de la démocratie.
Jean-Claude Casanova.
Oui, il a invoqué le nucléaire en octobre 22 et tout récemment en février 24. Alors d'abord, il a intérêt à invoquer le nucléaire pour se faire craindre et pour diviser les pays occidentaux. Et il y a certainement une part de tactique ou de stratégie, comme on voudra, d'intimidation, pour faire apparaître le risque. Et comme les démocraties sont sensibles à leurs propres opinions, il espère de cette façon amoindrir la résistance des démocraties et les diviser. Et parce que ce serait très difficile l'utilisation du nucléaire en Ukraine. Des armes nucléaires tactiques sur un front de type ukrainien détruiraient Kiev. Le coût pour la Russie serait considérable, le danger est considérable. Et donc, il est logique que les Occidentaux ne prennent cette attitude que comme une volonté de puissance ou une expression de la puissance. En ce qui concerne la Chine est un régime autoritaire également, avec un parti unique, et à l'intérieur de ce parti unique, un leader qui, contrairement aux décisions antérieures du Parti communiste chinois, se maintient en place au-delà de ce qui était convenu à un certain moment du temps de Deng Xiaoping. Mais la Chine a un problème économique considérable, c'est-à-dire que son équilibre social et politique est en grande partie lié à ses exportations et au maintien de son taux de croissance. Et de ce fait, il y a une prudence chinoise beaucoup plus grande que la prudence russe. Au fond, rien ne retient Poutine. Il est tout à fait indifférent au fait que les consommateurs russes ne peuvent plus importer de produits occidentaux. Et il joue même là-dessus sur la capacité russe de supporter la difficulté. Et donc, la Chine est dans le monde actuel plus raisonnable et la relation avec elle est plus facile et elle jouera certainement un rôle de stabilité vis-à-vis de la Russie. Mais pour l'instant, rien rien ne retient Poutine, et une tyrannie du type Poutine ne peut faiblir que de deux façons. Soit parce que le tyran lui-même change d'attitude, et il a la plasticité pour changer d'attitude. Il a déjà beaucoup changé d'attitude dans sa vie. Il s'est déguisé en démocrate, il s'est déguisé en étudiant, etc. Il a fait carrière sous Yeltsin. Il a une capacité de retournement incontestable pour rester au pouvoir. Et d'autre part, il n'y a plus vraiment de parti. Au fond, l'Union soviétique, c'était le KGB et le parti. Le parti a disparu, il reste le KGB. Mais à l'intérieur du système de sécurité russe, il y a quand même beaucoup de gens qui pourraient considérer que Poutine va trop loin, qu'il n'est pas raisonnable. Et donc, il faut attendre un changement, soit de la personne même de Poutine, soit de son environnement, si la pression est maintenue vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire si la Russie perçoit qu'il est de plus en plus difficile pour elle de supprimer la démocratie en Ukraine et de s'emparer de l'Ukraine.
Le problème, c'est que les opposants auxquels vous faites allusion, Jean-Claude Casanova, éventuels, ou qui pourraient se liguer un moment contre Poutine, sont éliminés les uns après les autres. Quand on regarde la liste de tous les assassinats qu'il y a eu, et qui ne sont pas limités à la Russie, qui sont de par le monde, c'est assez vertigineux. Ça me fait penser à ce que De Gaulle écrivait. De Gaulle, dans ses mémoires, raconte son entrevue avec Staline en 1944. Et il raconte qu'à un moment, Staline interrompt la conversation pour donner un ordre qui est un ordre d'exécution de quelqu'un. Et Staline, voyant l'étonnement du général De Gaulle, toujours selon le récit de De Gaulle, dit à De Gaulle, « Eh bien oui, vous savez, dans ce pays, il faut en éliminer quelques-uns régulièrement. » Eh bien, c'est cette doctrine-là que Poutine continue d'appliquer avec une ampleur inédite, parce que franchement, le nombre de le dernier en date, c'est le numéro 2 de Loukoïl, qui vient d'être, qui vient de mourir de façon très opportune du point de vue de Vladimir Poutine. Frédéric Ancel.
Oui, ce que vous venez de rappeler de la nature, tous les deux d'ailleurs, de la nature du pouvoir poutinien, et non seulement de sa nature, mais de sa dérive authentique, rend, je vais employer un terme un peu fort, rend encore plus méprisable ceux qui sont complaisants ici en Europe occidentale vis-à-vis de ce régime. Et tout à l'heure, Jean-Claude avait parfaitement raison. Parfois, ce sont des propos ou des comparaisons qui choquent, mais il a parfaitement raison de rappeler que dans les années 20 et 30, un Mussolini, un Hitler, qui par ailleurs avait tout dit, avait tout annoncé, avait tout écrit, même de manière parfois un peu clownesque, pour ce qui concerne Mussolini, de ce qu'ils allaient entreprendre. Eh bien, un certain nombre de nos élites à l'époque, et de simples citoyens, mais notamment d'élites, ne n'en avaient pas tenu compte. Et on a toujours tendance à considérer l'autre avec un A majuscule, donc l'adversaire, celui soit qui fait le clown, soit dont les discours sont tellement outranciers qu'il ne peut pas être réellement sérieux et qu'il tient ses discours vraisemblablement pour des raisons de politique intérieure. Eh bien, on ne les prend pas suffisamment au sérieux et on peut aller plus loin. Les Khmers rouges avaient tout annoncé de ce qu'ils feraient en s'emparant de Phnom Penh et le Hutu Power au Rwanda avait évidemment tout annoncé de la manière dont ils souhaitaient traiter les Tutsis. Et je pense que aujourd'hui, on est dans une situation ici en Europe occidentale, en France en particulier, je ne sais pas, mais en tout cas en Europe occidentale, où beaucoup trop de gens, on les retrouve systématiquement sur l'axe rouge-brun classique, extrême-gauche et extrême-droite, sont complaisants vis-à-vis d'un Poutine dont on ne peut pas ne pas savoir depuis 22, 23, 24 ans qu'il est au pouvoir maintenant et au regard de son métier antérieur, qui n'a jamais vraiment quitté d'ailleurs, officier des renseignements, dont on ne peut pas savoir qu'il ne veut pas rester, j'allais dire, plein de sagesse dans son propre pays, mais qu'il souhaite évidemment s'étendre de manière très impérialiste.
Avec la dernière indication de ce qu'il peut vouloir faire, qui est l'appel au secours, entre guillemets, de la Transnistrie, qui considère qu'elle est menacée par la Moldavie, alors que c'est une région qui s'est séparée précisément de la Moldavie, et qui en appellerait au secours des Russes pour écarter ou éloigner les méchants Moldaves. Mais c'est exactement ce qu'il a fait pour le Donbass, c'est ce qu'il a fait dans d'autres circonstances. Donc on voit bien que ce processus-là ne sera pas interrompu, Frédéric Ancel, en quelques
mots. Absolument, mais absolument. Et c'est un petit peu le syndrome des Sudètes. 2007. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2008 en Géorgie, où la Russie a prétendu intervenir en faveur de gens qui étaient russophones, qui d'ailleurs se sont vus délivrer des passeports russes dans l'Ossétie du Sud et en Abkhazie, pour mieux en réalité affaiblir et charcuter la Géorgie. Bon, ben là, on fonctionne de la même manière, ce qui est extrêmement, extrêmement dangereux et qui est l'une des caractéristiques des régimes impérialistes.
Jean-Claude Cazanova, quelques mots avant de se séparer.
Simplement de rappeler que les Moldaves, en fait, sont des Roumains. Moldavie-Valachie, ce sont des Roumains. Et c'est la Russie empêche l'unité de la Roumanie en mettant cette petite Transnistrie où il doit y avoir des Russes qui veulent rester Russes, encore que j'en doute. Les Russes de l'extérieur, les Russes des pays baltes, manifestement soutiennent plutôt les gouvernements baltes que le gouvernement de Poutine. Donc je pense que c'est une épreuve difficile, mais que la voie indiquée par l'Europe montrera et démontrera que d'une part l'Europe peut exister et que la démocratie peut ne pas être vaincue.
Frédéric Ancel, un mot de conclusion ?
Absolument, et c'est très fondamental. Hein. Je suis de ceux qui rappellent systématiquement que on ne peut pas séparer les intérêts et les valeurs. Lorsqu'on est un véritable démocrate, on ne peut pas considérer que l'un et l'autre sont disjoints. Défendre nos valeurs, c'est fondamentalement défendre nos intérêts.
Voilà pour ce rapide tour d'horizon consécutif donc à l'intervention du président de la République sur ces sujets de guerre entre l'Ukraine et la Russie et la réélection donc ce week-end de Vladimir Poutine. Merci donc Frédéric Ancel de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous enseignez, vous êtes maître de conférence à Sciences Po sur les questions de géopolitique, que votre dernier ouvrage, ce sont quelques leçons de diplomatie, des petites leçons de diplomatie parues chez Autrement. Merci donc Frédéric Ancel. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Cazanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.